France Inter.
Merci Sonia Gobry, on se retrouve à midi pour un nouveau point sur l'actualité.
Je peux goûter comme ça ?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Votre invité est un chef français qui compte 12 étoiles au Michelin.
Ma vraie chance, ça a été ma faillite. Parce que moi, je n'aimais pas ce métier au départ. C'est les années 80, la cuisine est devenue plus fine, plus intelligente. Et moi, je me suis engouffré là-dedans en me disant, tu vas en faire autre chose.
Le brillant Pierre Gagnère, les critiques l'appellent le fou chantant de la gastronomie.
Je pense que pour durer, il faut être honnête. Quand on met asperges blanches des Landes, ben elles viennent des Landes. Et puis après, le geste, ils mettent son cœur, ils mettent ses sentiments. Et les gens ne sont pas fous, ils le ressentent, ça. Hein. Moi, ma vie, c'était la cuisine.
Bienvenue sur le plateau dont on va déguster pour une toute nouvelle masterclass devant le public du studio 621 de la Maison de la Radio. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. Après Anne-Sophie Pic, Philippe Etchebest, Jean-François Piège, Olympe Versini, Emmanuel Renaud, Hélène Darroze, la grande signature de la gastronomie qui passe à la casserole de cette masterclass épisode 7 dont on va déguster. C'est Pierre Gagnère. Bonjour.
Bonjour.
Ce sont 50 ans de cuisine, Pierre Gagnère, que l'on va parcourir ensemble grâce à votre livre Somme. Je ne sais pas si c'est un livre testament, on vous posera la question. Je le soulève, il est lourd. Pierre Gagnère, une vie en cuisine aux éditions Kéribus, paru il y a 2 ans, en 2023. Une vie de chef, faite, on va le voir, de défaites, de gloire, de travail acharné, d'amitié, de création géniale. On vous rappelle la règle du jeu, cher Pierre, de cette émission très spéciale. Pendant une heure, on vous cuisine à petit feu, avec nos questions, nos surprises gourmandes, notre fameuse séquence de la plaque de cuisson à laquelle vous avez accepté de vous prêter, et le temps d'échange que vous ont concocté nos deux chroniqueurs rodés à l'exercice, Elvira Masson et Jérôme Gagnès. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à toutes et tous.
Bonjour à tous.
Cette masterclass est réalisée par Laurent Thomas avec Pauline Laverdure et Corentin Rouchy. Fabrice Ribaud pour la préparation et l'organisation de l'émission. Je signale aussi qu'il y a les équipes vidéo de France Inter qui captent les meilleurs moments de cette masterclass. Maxime Soulard, Julien Thévenot, Pierre-Yves Georges et puis Djoubaka, évidemment, pour la programmation musicale. Pour retrouver nos masterclass et tout leur contenu, recettes, bonnes adresses et vidéos, rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, les masterclass dont va déguster François-Régis Gaudry.
Et je pense qu'à cette époque-là, moi j'étais rentré totalement en admiration de Pierre Gagnère parce que c'était formidablement complexe. J'avais l'impression d'écouter du free jazz qui allait dans un sens et je me disais, il faut que je comprenne, il faut que j'arrive à rentrer, à monter sur le train. Et ça m'a beaucoup ouvert l'esprit.
Pierre Gagnère, nous recevions la semaine dernière, à ce fauteuil, François Simon, l'un des critiques gastronomiques les plus influents et les plus redoutés de France. Vous le connaissez ?
C'est bien, oui.
Il nous confiait sa lassitude à l'égard des grands restaurants, son rejet de la haute gastronomie. Il a écrit dans son nouveau livre « Y retournerai-je » chez Flammarion cette phrase « J'ai déserté depuis quelque temps ces sphères qui ne me parlent plus, qui ne m'écoutent pas. Mais vous l'avez séduit à une époque. » Pierre Gagnère, on vous a beaucoup comparé à un joueur de jazz en cuisine pour votre capacité à improviser, à faire un bœuf, en quelque sorte, à construire sur l'instant, à l'instinct, votre propre musique. Est-ce qu'elle vous fatigue un peu, cette comparaison au jazz qui vous colle à la peau, ou est-ce qu'au contraire, vous la trouvez juste et pertinente ?
Ouais, je pense que c'est vrai. Quand j'écoutais la petite séquence à l'instant que vous avez repassée, là, où j'expliquais deux ou trois choses, avec le recul, je ressens dans ma voix toujours cette inquiétude, cette fragilité. Je doute constamment et je me soucie d'être honnête, quoi, et de rendre une copie qui soit à la hauteur de l'investissement, l'état dans lequel je me mets. Mais ce livre, par exemple, ce n'est qu'une succession de mots, d'intentions artistiques. C'est pas des recettes bien calées, bien figées. Même la petite bricole qu'on va faire tout à l'heure, ça m'a pris la tête. Comment faire un truc un peu d'allure, mais pas trop compliqué, parce qu'il faut pas que ça traîne. En plus, la plaque, ben, c'est une plaque. Voilà. D'ailleurs, c'est parfait. La cuisine, c'est ça. Et moi, le premier livre, il y a 40 ans, c'était La cuisine immédiate. Cette espèce de jaillissement, et qui, pour le coup, correspond vraiment au free jazz, cette espèce d'histoire de... On prend un tempo, on peut dérailler, mais ce dérapage, au contraire, on va en faire un truc qui va vous emmener ailleurs. Et moi, c'est ce qui fait que je suis encore aujourd'hui vivant, hein, mentalement, quoi.
Ouais. Mais même après un demi-siècle de cuisine, vous ressentez toujours cette intranquillité, le fait d'être sur la corde raide à 75 ans.
Oui, mais d'abord, j'ai l'impression d'avoir 20 ans. Moi, je me sens tellement proche du garçon qui est avec moi aujourd'hui. Il faut vivre, il faut pas se poser de questions. Il faut... Voilà, et puis tant que... Il y a un intérêt pour ce que je fais, des gens comme vous, évidemment nos clients, parce que c'est important. J'ai connu les salles vides, j'ai connu, et la cuisine était la même. Mais tant qu'aujourd'hui, je sens que les gens font l'effort de venir dans nos restaurants, eh ben on y va, quoi. Tant qu'il n'y a pas de lassitude, on y va. Ouais.
Pierre Gagnère, vous avez évoqué un garçon qui vous accompagne. Oui. Aujourd'hui, dans un instant, vous allez passer derrière la plaque de cuisson dont on va déguster. Oui. C'est qui ce garçon? Présentez-le nous.
Alors, il s'appelle Mathieu. Il termine son apprentissage dans quelques semaines. Il est avec nous depuis, je crois, 4-5 ans. 5 ans. Pour moi, c'est l'exemple parfait de ce que peut produire l'apprentissage dans notre pays où on critique tout le monde, tous les systèmes. Il y a des très belles écoles hôtelières en France. Il y a des professeurs formidables. Et ben lui, il a fait un mois chez nous, un mois à l'école. Il s'est accroché, il est curieux, il s'est intéressé. Et lui, ses parents sont colombiens. Et son rêve, très vite, c'était le Japon. Bon, il s'en donnait les moyens. Je lui ai un petit coup de pouce, puisqu'il va rejoindre un de nos anciens, qui est le chef d'un des plus beaux restaurants à Tokyo, de cuisine française.
Vous voulez parler de Lozier.
Lozier, voilà.
À Tokyo, grand restaurant français dans la capitale nippone.
Et ce gamin, ben, il s'est débrouillé tout seul, il a les papiers, ça y est. Le 25 septembre, il a pris son billet d'avion, et il commence, 3 semaines après, il commence dans ce restaurant. Voilà, il va au bout de ses rêves.
Ben bravo Mathieu, 20 ans.
Bravo.
Voilà, voilà. Bravo.
Bravo.
Ouais. Quelques lignes de votre CV, Pierre Gagnère, pour vous resituer. Vous êtes chef au sein de l'hôtel Balzac, 6 rue Balzac à Paris, 3 étoiles au guide Michelin. Vous avez 12 restaurants, on a fait le compte, hein, dans le monde, qui totalisent 10 étoiles à votre compteur, dont 3 belles étoiles à Londres, au Sketch, sans compter les cartes des 6 brasseries Fouquet's que vous signez de Paris à La Baule, en passant par Montreux. Vous avez écrit ou coécrit de nombreux livres de cuisine, 12 au total. Et en 2023, effectivement, on le disait, est paru cet impressionnant pavé de 448 pages. Il fait 2 kilos. Hein. Pierre Gagnère, Une vie en cuisine aux éditions Caribus, coécrit avec l'auteur, journaliste et restaurateur Julien Foin, une bible spectaculaire, enrichie par des documents de toutes sortes, souvent inédits. Tous les menus qui ont jalonné votre carrière, c'est un peu le scénario de votre épopée culinaire, mais aussi des photos personnelles, des carnets, des coupures de presse, des notes écrites de votre main, des recettes, etc. Je vous propose, Pierre Gagnère, on est obligé de faire une sélection, d'évoquer 4 dates qui correspondent aux 4 lieux de votre vie. On va être obligé de les évoquer rapidement, parce que vous avez évidemment une vie foisonnante et dense, faite de haut et de bas, même s'il y a beaucoup de haut, on va le voir. On commence avec la première date, 1976. Vous reprenez
le restaurant familial, ouais.
Le Clos Fleury.
Près de Saint-Étienne, oui.
Ça n'a pas été le coup de foudre immédiat avec la cuisine. Vous avez un peu commencé, vous l'avez dit, votre carrière sur un malentendu. Quand j'évoque 76, le restaurant familial, il y a quoi? C'est un souvenir aigre-doux? Il y a un peu d'amertume?
Oh non, non, c'est un souvenir... d'un rattache familial... auquel nous sommes tous confrontés, qui est celui de la transmission. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup. Transmettre, ça veut dire s'effacer, ça veut dire être capable d'écouter l'autre, voilà, et puis prendre quelques décisions qui sont juridiques. Et quand je suis arrivé dans cette entreprise, qui était une entreprise assez importante, hein, il y avait une 20aine de personnes, bon, le restaurant était étoilé, je me suis rendu compte que rien n'était organisé. Donc, en bon fils de famille, ben, je me suis accroché pendant 2 ans et demi. Mais en 48 heures, j'avais compris que ça n'irait pas. Voilà. Donc, c'était effectivement assez douloureux, ouais. Et c'est l'année où j'ai aidé mon fils, un de mes fils, ouais. Et on a parlé de problèmes d'eau. Ça aussi, c'est une chose qui m'a beaucoup marqué. Oui, donc... C'est en 76 qu'on a parlé de flotte, voilà.
C'est la grande canicule de l'été 76.
Absolument.
Ce démarrage dans cette carrière superbe qu'on vous connaît... a commencé effectivement de manière oui, c'est ça.
Chaotique.
De chaotique.
Très chaotique.
1981.
80, ben c'est lorsque j'ouvre mon propre restaurant et on me dit, t'es vraiment fou, les bolcheviks sont aux portes de la ville, puisque Mitterrand d'être élu. Donc, mais j'avais trouvé un lieu extraordinaire, l'ancienne cantine de l'EDF. Et là, c'était le bonheur absolu. Je suis resté 11 ans dans ce lieu, et là, j'ai déliré, mais alors grave, comme on dit.
Il y en a un, attendez, vous allez voir. Il y en a un qui raconte avec émotion ce lieu, votre lieu, celui que vous avez ouvert à Saint-Étienne en 1981.
Oui. Son premier restaurant a été rue Georges Tessier à Saint-Étienne. Tout de suite, il a fait rentrer une modernité exceptionnelle dans la décoration, la table, le service et surtout une révolution absolue dans ce qu'on allait manger. Premier plat, c'était, ah mais je m'en souviendrai toute ma vie, des crêtes de coq. Et là, c'était plus sur terre que je mangeais, c'était je sais pas où, qui s'est terminé aussi par un dessert avec des légumes. Alors là, c'était un autre monde. Voilà, c'est Pierre Gagnère, son premier... Il allait ouvrir, c'est ses premiers... J'étais son premier client.
Un ami d'enfance ?
Oui, un ami d'enfance, oui. Un Ardéchois.
Jean-Marc Chamard ?
Oui.
Que l'on entend dans un documentaire, donc, qui s'intitule « Dans la tête de Pierre Gagnère » de Anne-Lise Laffey de Lautal.
Oui.
Et qui a été réalisé en 2022. Moi, j'aurais vraiment aimé vivre cette époque. J'étais malheureusement trop jeune pour m'y attabler. Un an plus tard, en 1982, vous obtenez votre macaron Michelin. On dit que c'est grâce à un certain soufflé au chocolat.
Oui. En fait, je ne suis pas un passionné des livres de cuisine. Mais quand même, comme tous les cuisiniers de ma génération, on feuilletait l'Escoffier, qui est la Bible, qui était la Bible aujourd'hui.
Voilà. Il y a débat.
Oui. Et page, je ne sais pas combien, voilà, il y avait une recette d'omelette soufflée. Et en fait, je pense que ça résume assez bien mon travail. Tu vas en faire un soufflé au chocolat. Et comme ça ne monte pas vraiment comme ça, je suis honnête, je l'appelle biscuit soufflé.
Ah.
Comme ça, je ne prends pas de risque. Voilà. Et en fait, je ne suis pas si fan que ça de ce truc-là. Mais ça plaît.
Ça plaît.
Et donc, voilà. Et c'est le seul plat qui est le fil de ma cuisine de mes 50 ans. Alors, plus de 50 ans maintenant. Hein.
Et oui, c'est vrai, plus de 50 ans. En effet, 1992, déménagement.
Mais pour moi, ce n'est pas une date essentielle, ça. Non, la date essentielle, c'est vraiment 4 ans après. Et là, pour le coup, là, je me suis projeté, ce qui n'est pas évident, sur les années qui allaient venir, les 10 ans qui venaient, je me suis dit, là, mon coco, si tu ne prends pas une décision, t'es cuit. Tu vas finir avec des...
Mais alors, je trouve, Pierre Gagnère, que 92, vous balayez la date un peu vite, parce que, effectivement, bon, c'est une période faite, évidemment, d'ambition et de douleur, mais vous déménagez dans un magnifique hôtel particulier de style Art déco, on est aux 7 rues de la Richelandière, vous avez vu, il est vrai, les choses en grand, voire en très grand, 1000 mètres carrés à Saint-Étienne, 15 millions de francs d'investissement, une cave de 10 000 bouteilles, des œuvres d'art, 5 salles à manger, 2 cuisiniers, gros succès au début. L'étoile, la 3e étoile Michelin arrive en 1993, donc un an après.
Oui.
Et là, vous êtes vraiment au sommet de la gloire. Et effectivement, ça a été la chute.
Mais ce lieu, dès que je l'ai investi, je savais qu'il avait fait une erreur. Ce serait trop long à expliquer, mais c'était pas un bon plan. Voilà. Non, la date décisive pour moi dans ma vie d'homme, ça a été effectivement 76,
oui.
Et ça a été 96, parce que c'est une décision qui est lourde à prendre, parce que ça m'a coûté plus que cher, puisque j'ai tout perdu, mais c'est aussi ce qui m'a construit.
1996, c'est reparti pour un tour.
Un peu de ça, voilà, très bien, parfait, bravo. Allez, on fait 6 Saint-Pierre. Oh non, ça c'est grand, c'est assez grand, saucière. C'est assez grand, il y a ce qu'il faut en sauveur, là.
Coup de feu à Paris.
Ah, c'était fou. Quand je m'écoute, Et j'ai pas fait de dépression nerveuse, hein, jamais. J'ai jamais pris de pilule. Je sais pas comment j'ai fait. C'était dingue.
Qu'est-ce qui était dingue? Votre arrivée à Paris? Je vous sens ému, silencieux. Vous êtes un phénix des fourneaux, Pierre Gagnère. Vous avez ouvert votre restaurant Pierre Gagnère au 6 rue Balzac dans le 8e arrondissement près des Champs-Élysées. Vous y avez retrouvé vos 3 étoiles en 1998. Le succès est absolument phénoménal. Pierre Gagnère, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est le mystère Pierre Gagnère. D'ailleurs, Julien Foin, je partage son analyse dans votre livre Pierre Gagnère, une vie en cuisine. Vous avez désormais séduit toutes les générations, vous avez réussi à mettre tout tout le monde d'accord, on a le sentiment que le temps glisse sur vous. Vous avez vécu la cuisine bourgeoise de campagne avec votre établissement familial, avec vos parents. La nouvelle cuisine ou la nouvelle cuisine à Saint-Étienne. Une forme de cuisine moléculaire avec votre ami le physico-chimiste Hervé Tisse. Vous êtes dans les années 2000 une idole du fooding. Tout le monde est d'accord pour dire que vous êtes un génie, y compris à l'étranger, où vous avez une réputation de monstre sacré de la gastronomie mondiale. Humainement, je n'entends personne, et c'est vrai, vous pouvez en témoigner. Hein.
On n'entend que des bonnes choses
on
de vous.
On n'entend personne dire du mal de vous. C'est quoi votre secret ? Alors, je vous propose une chose, Pierre. On va...
Parce que là, je suis désolé.
On se fait une petite pause ?
Il n'y a pas de secret.
C'est une passion dévorante qui vous anime dans la cuisine.
Je sais pas.
Vous vous réalisez par ça, finalement.
Je ne sais pas. Dès qu'on parle de ce moment-là, qui me touche toujours, j'existe par les autres. La cuisine, je m'en fous un peu, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les autres. C'est ce partage qui fait qu'on est vivant, quoi. Vous savez, aujourd'hui, ma frustration, peut-être, je le dis comme ça, c'est putain pas avoir d'étoiles vertes. Quand on est des gens comme nous...
Alors, l'étoile verte, on évoque évidemment cette récompense du guide Michelin à l'égard des chefs qui ont une démarche environnementale, écologique...
Mais moi, sauf que j'en fais pas un porte-drapeau avec des communiqués de presse ou des choses comme ça, mais tous les gens qui font du 3 étoiles, je peux mettre la main au feu, ce sont tous des gens qui sont obsédés par la sincérité de ce qu'ils mettent dans l'assiette. Et après, la différence, alors c'est autre chose, c'est effectivement... la façon dont on vit son métier. Ce que je dis à propos de ce gamin, mais il y en a des dizaines de jeunes comme ça, moi, ça m'émeut. Ces gens qui s'investissent. Un gars qui est avec nous depuis 8 ans, il va nous quitter. C'est un solide, c'est un costaud, c'est un rugbyman. Sur le trottoir, il voulait me parler. Enfin non, il veut pas, il voulait me prendre rendez-vous. Je dis non, et on se parle. Et ce mec, il est tombé en pleurs. Il dit, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je viens de passer 8 ans. Je sais que je dois partir, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et je pense que toute vie d'homme, elle est faite de décisions. Voilà. Et puis après, moi, j'ai eu la chance d'avoir un peu de succès, la chance... Mais il n'y a pas de recette, évidemment. Et surtout, pas s'auto-congratuler, quoi. C'est les autres qui vous font vivre, c'est les autres qui vous font avancer. Quel que soit le métier qu'on fasse.
Et Pierre Gagnard, vous êtes même une source d'inspiration pour les artistes. Vous avez mis votre grain de sel au cinéma en 2024. On vous avait reçu à cette occasion au micro d'On va déguster. Vous avez été le directeur gastronomique du film La Passion de Dodin Bouffant, réalisé par Tran Anh Hung avec Juliette Binoche et Benoît Magimel. Vous tenez un rôle dedans, on va l'entendre. Et l'un de vos menus s'est même transformé en parole d'une chanson rock en 2002.
Le menu sera composé de 3 services. Pour le premier, les potages seront 1 de bisque de pigeon, 1 de caille au coulis de la reine, 1 d'écrevisse et l'autre de sole farci.
Pascaline d'omble chevalier, fine escalope pochée dans une infusion d'herbes fraîches au poivre de Madagascar. Gelée au vin de paille, bouquet d'écrevisse lié d'un sabayon au cédra.
Mille feuilles croustillant au château Climas, 1995. Pressé de choux, cœur de bœuf et chair de tourteau, assaisonné d'un beurre fondu, cerfeuil et miel d'arbousier, une déclinaison d'asperges vertes et blanches.
Pigeon gautier rôti entier, puis terminé à l'étouffer dans un poivron rouge. Galette d'oignon cébette aux fruits secs, miroir cassis de vin, échalotes confites et traits de chocolat amer.
Les poissons bleus, pavés de bonnet cuits en cocotte, terminés dans un jus de lisette au vadouvant, escabelles de sardines à l'aubergine, poêlés de thon rouge liés d'un sucre de crevettes grises, pissaladière d'anchois frais aux poules de choux.
Les langoustines, 3 préparations de langoustines bretonnes, grillées terre de sienne, en tartare et en mousseline, infusion de crustacés au girole liés de caroube, salade de mangeline, tuiles, amandes et citron vert.
La charcuterie fine, ballotine de foie de canard aux graines de moutarde râpées de chorizo, pâté de veau truffé, chiffonade de poirée rouge, bouillon cultivateur, pelota tartinée d'une pâte de figo xérès, l'eau portugais, copa corse et
service. Petit homard bleu, poché au moment, puis simplement enrobé d'un beurre noisette, gingembre et citron bergamote, bocconcini, haricots, viande et pinces en salpicon, consommé glacé à la menthe verte, focaccia coraillée.
Pierre Gagnère est l'invité exceptionnel de la masterclass dont on va déguster devant le public du studio 621. Ouais. Elle vous fait quoi cette chanson Slow Food en 2002, issue de l'album Strange du groupe de rock français Aston Villa?
Eh bien, c'est grâce à France Inter et Jean-Louis Foulquier. J'étais invité à une de ces émissions et il y avait le groupe Aston Villa qui se produisait. Et puis j'ai sympathisé avec le batteur, Laurent Muller, qui est maintenant en Espagne. Et puis ils m'ont écrit cette chanson qui est extraordinaire, moi je trouve. C'est...
Vous l'aimez?
Ah, j'adore.
Il y a du beau monde, hein. On entend la voix de Jean-Louis Aubert. Vous avez reconnu dans le public certaines voix?
Oui.
Bravo,
oui.
Jean-Pierre Coff. Il y a également Alain Bachung, évidemment.
Ah, oui.
Zazie.
Oui.
Maurice des Robins des Bois.
Oui.
Qui récite des intitulés de vos recettes.
Et puis également.
Jacques Lanzmann.
Mon copain Jacques. Ouais.
Incroyable. Pierre Gagnère, je vous propose un autre petit exercice. J'ouvre votre livre, votre très beau livre, à la page 114 et je tombe sur.
Le bouillon Zézette.
Avec ce qui ressemble à une carafe.
Alors la carafe, elle a une petite histoire, elle vient de Belle-Île. Il y a des maîtres verriers. Et donc je travaille avec eux, ils font des très jolies choses, voilà. Alors ce bouillon Zézette, ben, il y a des mots comme ça, qui évoquent, voilà, Zézette c'est le sourire, c'est joyeux, c'est un peu, voilà, c'est un peu bancal, voilà. Et donc c'est des herbes, c'est du, voilà, un peu de lait de coco, un peu d'ail, voilà. Et en fait, il peut varier en fonction de la saison. Si on fait un bouillon Zézette au Vietnam, ben, il aura la même couleur, évidemment, ça je tiens à la couleur, mais il peut être complètement différent. Parce qu'au Vietnam, ben, tout le monde le sait que c'est quand même le pays des herbes, des arômes. Voilà.
Vous avez imaginé ce bouillon lors d'un cours de cuisine,
oui,
à Hong Kong, c'est ça?
Oui, ce qui est assez rare, mais effectivement, c'est un cours de cuisine. C'était en 2007, truc comme ça, voilà. Oui.
Alors là, on parle quand même dans ce bouillon, puisqu'on a bien été obligé, malgré votre fébrilité en cuisine, vous avez quand même gravé dans le marbre cette recette, et il est question de champignons de Paris agrémentés de lait de coco, de soja, d'ail. Il est ensuite mixé, comme vous le dites, avec beaucoup d'herbes fraîches,
voilà,
du moment.
Voilà.
Mais évidemment, comme vous êtes amateur de frites jazz, ce bouillon Zézette, il peut prendre d'autres tournures et d'autres chemins.
Oui, on servait à une époque, on servait des petites galettes de mandade de morue avec de la courge. On peut le servir froid. Ouais.
Je tourne la page de votre livre et je tombe sur une grande création signée Gagnère.
Qu'est-ce que c'est ça?
Barzbellino.
Ah oui, Barzbellino, oui. Alors, là aussi, il y a plusieurs versions.
Là, on parle d'un condiment.
Ces petites choses comme ça qui...
Que Michel Brass appellerait les gnaques.
Oui. Mon ami Michel, que j'aime beaucoup. Voilà. Alors voilà, pour moi, un exemple aussi d'une famille avec une transmission qui s'est faite formidablement. Pudlowski nous appelait, il y a 40 ans, le roi des champs, le roi des villes, voilà. Non, Michel, c'est quelqu'un dont je suis très proche. Bellino, c'est, j'ai plus, il faudrait relire la recette.
Ah, vous savez plus.
J'ai oublié.
Voilà, c'est ça le problème. Un condiment à base d'olive verte et d'olive noire, d'ail, de romarin, de mie de pin, d'un jus de rouget très serré,
voilà.
Qui sert à farcir justement ces petits rougets de roche,
voilà,
qui sont cuits entiers au four. Et ce mot Bellino, vous dites qu'il évoque pour vous... c'est un fantasme de Méditerranée. Mieux que ça, c'est l'Adriatique, hein.
Oui, c'est ça. Oui.
Le troc gourmand, c'est un échange de bons procédés entre nous. On vous a demandé de nous préparer une surprise qu'on va goûter à l'aveugle avec notre public.
Oui.
Et en échange, l'équipe dont on va déguster vous fait goûter une surprise. Ça vous va?
Oui.
Alors, vous avez besoin, je crois, de passer derrière la plaque de cuisson pour votre surprise.
Juste dresser la...
Allons-y. Deux membres de notre public vont participer à cette dégustation. S'installe au micro. Candy, bonjour.
Bonjour.
Frédéric, bonjour.
Bonjour.
Votre relation à Pierre Gagnère?
Admirative.
Moi, j'ai eu la chance de goûter sa cuisine, donc oui, extrêmement admiratif.
Bon, et ben vous allez goûter du Pierre Gagnère dans un studio France Inter. Hein. On n'est pas rue Balzac, on n'est pas dans une de ses brasseries.
Vas-y,
on
est passé.
On a les glandes salivaires en surchauffe. On va la goûter tous ensemble.
Alors nous avons chacun et chacune une petite cuillère dans laquelle est disposée une consistance crémeuse blanche surmontée de quelque chose qui pourrait ressembler à une olive, en tout cas une petite sphère sombre, parsemée de petites graines de sésame.
On y va ?
Allez.
1, 2, 3. Ah oui. C'est une boule de flipper dans le,
ah oui,
dans le palais.
Ouais. Et ça a été imaginé donc pour l'émission. Hein. C'est pas...
Formidable.
Ouais. Mais c'est une boule de flipper qui roule. Elle cogne pas trop fort.
Oui, elle cogne pas trop fort. En même temps, la détection très intrigante. Candy, Frédéric, je voudrais vos impressions. Candy.
Alors, on est sur quelque chose de très délicat. C'est assez surprenant parce que c'est craquant.
Oui,
on a de l'onctuosité, de la salinité. C'est un bonheur de pouvoir déguster votre cuisine. Merci beaucoup.
Frédéric.
Oui, ce qui est très étonnant, surtout, ce sont les goûts qui apparaissent les uns après les autres. Et on a en effet ce goût d'olive. On a l'impression que la bille est une sorte d'olive qui a été totalement desséchée. Et puis, il y a le sésame qui vient, en effet, en fin de dégustation et qui vient rehausser tout cela. Oui, c'est enfin, magnifique.
Jérôme.
C'est la texture qui est la plus intrigante, en fait, dans cette histoire, parce que l'olive, on l'a relativement vite, mais la texture de l'olive, elle est très, très intrigante, parce qu'on imagine qu'on a une olive séchée, mais il y a une texture qui est presque sableuse. Mmh. Moi, j'aime beaucoup l'olive, donc je suis très content, parce qu'il y a tout de l'olive, à la fois les arômes, le parfum, ainsi que l'amertume.
Et la douceur.
Et la douceur, il y a...
Il y a un jeu entre la douceur et l'amertume.
Texture. Mais c'est véritablement la texture qui est la plus étonnante dans cette histoire.
En dessous, c'est un tofu qu'on fait nous-mêmes. Et c'est agrémenté d'un petit peu d'huile de sésame, voilà. Et des graines de sésame. Voilà.
C'est brillant. Est-ce que cette petite création a un petit nom ?
Non, pas encore.
Et c'est quel type d'olive que vous avez utilisé là ?
Ça, c'est des tagliaches.
Des tagliaches. Alors là, on parle d'une olive italienne, de Ligurie, qui est d'ailleurs la cousine germaine de l'olive de Nice.
Oui, alors je suis pas spécialiste, moi.
Je vous le confirme.
Voilà. Moi, ce qui me passionne, c'est le geste. Le reste, en vieillissant, ça m'intéresse de plus en plus. Mais c'est vrai que ma vie, ça n'a pas été les produits. Ça a été vraiment le geste. C'est la magie de l'homme, quoi.
Candy et Frédéric, si vous deviez trouver un petit nom de baptême à cette création comme ça, à cette fulgurance.
Peut-être un oxymore, parce qu'il y a quelque chose à la fois très caractérisé, très puissant, et en même temps c'est complètement suave. Donc j'ai pas encore les mots, mais je pense que je serai sur quelque chose qui relève de l'oxymore. Oui.
Très bien. Frédéric, vous diriez quoi ?
Oui, c'est cette bicraquante d'olive quoi, qui ressort. Ouais. Bicraquante d'olive.
Bicraquante d'olive. Merci beaucoup, Pierre Gagnère. C'est à notre tour de vous faire une surprise. Vous êtes prêt ou pas ?
Oui.
On parle d'une couleur marron qui nappe à la fois un concombre, un cœur d'artichaut, une asperge blanche rôtie. Mmh. Alors, Pierre, commence à goûter une sauce.
C'est des arachides. C'est très bon. C'est piquant.
Oui.
Du piment.
Oui.
L'acidité, c'est pas du citron.
Non. C'est un fruit. Ouh, ça chauffe un peu.
Ouais, c'est bon.
C'est un peu mexicain, ça, non ?
C'est quelque chose qui va vous parler, vous allez voir la solution des jeux. Candy et Frédéric ?
J'ai l'impression qu'il y a du Sichuan, non ? Il y a quelque chose d'un petit peu astringent, acidulé.
Bien joué, Frédéric ?
Capre, peut-être ?
Je ne crois pas. Jérôme ?
Il y a beaucoup d'ail.
Oui, il y a de l'ail.
Donc je pense qu'une part du piquant, il y a effectivement du piment, mais une part du piquant aussi, c'est l'ail qui y contribue.
Pierre Gagnère, l'indice, c'est aussi la couleur.
Je trouve qu'il y a un côté un peu sauce saté. D'Asie du Sud-Est, et il y a un fruit acidulé qui me fait penser, parce que c'est un produit que j'utilise un peu chez moi, une sorte de pâte de tamarin.
Applaudissements pour Elvira Masson.
C'est ça.
Alors, c'est pas nous qui avons préparé la surprise, Pierre Gagnère. C'est un chef cuisinier que vous connaissez bien, qui s'est occupé de cette surprise. Alors, vous voulez savoir de qui il s'agit, est-ce qu'il vous a préparé ?
Ah bah oui.
Bonjour, je suis Simon Witz, le chef du restaurant Elmer à Paris. J'ai travaillé chez vous, chef, au restaurant Pierre Gagnère pendant un petit peu moins de 2 ans, dans les années 2010 de mémoire. Voilà, j'ai choisi de vous proposer une petite préparation, un condiment à base de tamarin. Tamarin, c'est un produit que j'avais découvert chez vous. Voilà, c'est un produit qui vient d'Afrique, mais également qu'on trouve dans les Antilles. Une cabosse, une petite coque avec un fruit assez, avec des pépins dedans et une petite pâte. Et donc, j'ai préparé un condiment à base de cette pâte-là, qu'on a travaillé avec de la cacahuète, avec un petit peu de piment, avec différents assaisonnements, un petit peu de mirin et un petit peu de sucre aussi pour casser l'acidité. C'est quelque chose qu'on propose au restaurant. C'est un peu un espèce de dip. On vient tremper des produits. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis quelques petits légumes à croquer avec. J'espère que ça vous a plu et j'espère vous voir bientôt au restaurant Elmer. À très vite.
Simon Horwitz, le chef du restaurant Elmer, un bistrot très très recommandable, rue Notre-Dame de Nazareth, Paris 3e, on est à côté de la place de la République à Paris. Et effectivement, il a découvert le tamarin chez vous. On parle de cette gousse tropicale avec une pulpe acidulé, qui est utilisé alors effectivement beaucoup en Afrique, mais également, moi je suis allé récemment au Vietnam, tamarin partout.
En Inde aussi.
Cuisine thaïlandaise,
oui.
Notamment pour ce fameux pad thaï. Hein.
Oui, oui.
Cette sauce acidulée est faite à partir de cette pâte de tamarin. Et vous avez découvert le tamarin
À l'époque, je pense qu'on liait le jus d'agneau et du tamarin.
Ah, voilà. Formidable.
Plutôt un liant, voilà.
Je vais remercier évidemment Candy et Frédéric. Merci de vous être prêtés au jeu avec autant de talent et de brio, sans aucune appréhension. Je cède la parole à Elvira Masson pour un petit temps d'échange avec vous.
On va déguster. Sur France Inter.
Alors, on a déjà pas mal dit depuis le début de l'émission que votre livre est très impressionnant. Il tient à la fois de la monographie et un peu du roman d'une vie. On y retrouve énormément de vos menus, mais moi je suis tombée en arrêt devant une page toute simple et assez modeste qui porte le nom de Terre de Sienne. C'est le nom d'un mélange d'épices que vous avez créé en 1989, donc à Saint-Étienne. Donc. Ce condiment s'inscrit dans la durée car elle a une vraie valeur gustative, écrivez-vous. Et moi j'en suis tombée amoureuse sans l'avoir goûté. C'est drôle comme une liste d'épices toute simple peut soudain convoquer... la complexité d'un goût et peut-être d'un voyage. Alors, il contient du paprika, ras el hanout, curry madras, poudre de tomate, poudre de framboise, poudre d'orange séchée, badiane en poudre et chapelure. Moi, c'est un condiment que j'aimerais bien avoir chez moi. Est-ce que vous ne pensez pas, je blague qu'à moitié, qu'il pourrait être commercialisé et qu'il aurait éventuellement sa place sur les étagères des épices Rollinger?
Si Olivier veut s'en emparer, je lui donne la recette.
Ce serait une belle collaboration, parce que précisément, les épices Rollinger
oui,
font
mais,
des collaborations avec des chefs, avec des auteurs.
Puis Olivier, il n'y a pas de problème.
À ce propos, je vous offre ceci. Vous reconnaissez le papier de soie bleu. Hein, ce n'est pas une surprise. Il est possible.
Olivier, oui,
il est déjà.
Oui, oui.
Oh, c'est gentil.
Pour Jérôme aussi.
Oh, bah, c'est
il n'a jamais
gentil.
De cadeau.
Moi, vous observez que...
Non, mais vous l'avez. Alors, Pierre, vous l'avez peut-être déjà. Est-ce que vous devinez de quoi il s'agit? Puisqu'on continue un petit peu les devinettes, non? Tant qu'à faire.
Ben, c'est la poudre d'harissa.
Voilà.
Dans tous les cas, je connais les épices d'Olivier. S'il a du succès, c'est que ces produits sont d'une extrême fraîcheur. Le monde des épices, c'est un monde de traquenard. Hein. Il y en a des bistouilles. Hein. Ouais. Non, là, c'est super.
Et vous avez raison, quand on met son nez sur des épices de chez Olivier Rollinger, il y a probablement d'autres artisans aussi.
Ça sent le thé, c'est net.
Et ça remet le facteur sur le vélo, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, on se rend compte qu'on n'a jamais véritablement senti d'autres épices quand on n'a pas senti les siennes.
Non, il fait un boulot formidable.
Cette poudre de harissa est signée Farida Bedreddine. Oui. Elle est autrice culinaire, elle est journaliste. Il y a quelques points communs entre sa poudre et votre terre de Sienne, notamment le paprika et la tomate. C'est une harissa algérienne, kabyle, plus précisément. Alors, je passe un peu par le truchement de ce petit cadeau et de ces épices pour vous me parler un petit peu, justement, de votre amitié. Vous avez évoqué votre amitié avec la famille Brasse.
Oui.
Julien Foin, dans le texte d'introduction, écrit « Des copains, il en a beaucoup, mais il compare votre trio, que vous composez avec Rollinger et Brasse, à celui composé par Brel, Brassens et Ferré.
Ah, » oui,
on sort un peu de la métaphore jazz, là, pour une fois.
Oui, mais c'est pas, oui, c'est pas mal, oui.
Alors, est-ce que vous avez pu, au fil de votre carrière, dont on sait qu'elle a été dévorante, que le métier a pris peut-être toute la place, vous le dites aussi dans le livre que pour vos enfants, ça n'a pas été simple, qu'on rattrape le temps après, mais que quand ils sont petits, on n'est peut-être pas forcément assez présent. Mmh. Et ça, on raconte ça beaucoup, pour beaucoup destins de femmes et d'hommes chefs.
Hélène Darroze nous disait
Darroze
la même chose.
Beaucoup dit. Oui, ce n'est pas une particularité qui vous appartient. Mais en termes d'amitié, dont on sait qu'elles sont importantes pour vous, est-ce que vous avez réussi à les cultiver, ou est-ce que c'est un regret que vous pourriez avoir de ne pas avoir peut-être eu assez de temps?
Non, moi, ce que je peux regretter, c'est qu'effectivement, j'arrive à un moment de ma vie où je me rends compte qu'il y a des choses que je ne peux plus faire. Voilà. Et j'aurais aimé les faire, par exemple, avec ces deux personnes qui ont fait des très beaux voyages ensemble. Ben moi, j'ai pas pu y aller. J'ai pas pu y aller parce que j'ai pas de pognon. Voilà. Et quand on n'a pas de pognon, on reste en retrait et on fait pas le malin. Il y a une partie de ma vie où il fallait survivre. Quoi. Donc ça, plus ce travail, plus l'essentiel, il n'y a pas de choix. Quoi. Mais j'ai aucun regret. Aucun regret.
Vous êtes apaisé?
Je crois, oui. Enfin, apaisé et à la fois pas tant que ça, puisque cette histoire de 96 tout à l'heure... Quand j'ai entendu cette voix de ces premières années à Paris, qui ont été quand même très très compliquées, très difficiles, qui effectivement sont peut-être ma blessure, quoi. Mais apaisé, oui, je le suis, parce que j'ai la chance d'être entouré d'une famille, j'adore mes petits-enfants, enfin, tout ça fonctionne plutôt très bien, voilà.
Merci Elvira.
Ouais, merci.
Et signalons que dans la maison Rollinger, c'est Mathilde, la fille d'Olivier.
Évidemment, que je n'ai pas citée.
Qui s'occupe
pilote,
des mélanges
évidemment,
d'épices. Oui, on a fait une émission très intéressante
avec elle,
sur les mélanges d'épices.
Elle a par ailleurs sorti un livre génial qui s'appelle Boire les épices.
Oui.
On aura l'occasion d'en parler, je pense.
On va même la recevoir à ce sujet.
Ah, formidable.
Un peu plus tard. Dans un instant, Pierre Gagnère, vous avez accepté de relever le défi de notre plaque de cuisson. 5 minutes pour nous réaliser quelque chose accompagné de votre apprenti Mathieu. Jérôme Gagnès voudrait aussi causer vin avec vous. Ouais. Phoenix de l'artiste londonienne Optala. Phoenix, voilà un titre de chanson qui va bien à la carrière de Pierre Gagnère.
Les masterclass dont on va déguster sur France Inter.
Et vous avez aimé ce titre, c'est
beaucoup,
ça?
Beaucoup, ouais.
Ah,
ouais.
Bah ça nous fait plaisir.
C'est un peu jazzy, hein.
C'est jazzy.
Ouais.
Sans trop de flagornerie, Pierre Gagnère, ce qui fait sans doute de vous un très grand chef, c'est que vous avez enfanté une génération de chefs qui vous admirent tous. Alors évidemment, on entendait Simon Horvitz dans un registre bistronomique, mais il y a également un garçon que je tiens peut-être pour l'un des plus talentueux de sa génération, Florent Pietraval,
oui.
Chef de la Miranda à Avignon.
Oui.
Julien Boscus, restaurant Origine, Paris 8e. Julien Durand, formidable, chez Chantoiseau, oui, rue Le Pic, Paris 18e. Juan Arbelaez, chef également d'origine colombienne, oui, qui a travaillé à vos côtés. Guillaume Delage, au Père Lapin, à Suresnes.
Oui.
La pâtissière japonaise Keiko Nage, qui a fait des merveilles.
Oui.
Mais il y a aussi, sans vouloir vexer personne, celui que l'on pourrait peut-être considérer comme... je vais vous mettre dans de sales draps, là. Comme votre chouchou.
François-Xavier Simon, chef du Bistro Blaise à Marchand-Famène, dans les Ardennes belges. Pierre Gagnère, pour moi, c'est plus qu'un mentor. La première chose, c'est une remise en question de tous les jours. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel et que je veux transmettre à mes équipes comme lui me l'a transmis. Dès que j'ai commencé à travailler avec lui, c'était une philosophie, mais il ne vient pas avec des techniques qui sortent de nulle part. C'est, on travaille une idée, un peu jouer sur toutes les saveurs, mais avec pas farfelu. Ça doit être juste, c'est justifié, c'est pas mélanger pour mélanger. Quoi. Tout a un but. C'est surtout l'équilibre, en fait. J'essaie de trouver au quotidien, comme lui me l'a appris, quoi. Aujourd'hui, je suis encore en lien avec le chef, parce que, ben voilà, il y avait plus que la relation chef-employé, quoi. C'était une relation assez fusionnelle. J'ai voyagé beaucoup avec lui. Et aujourd'hui, moi qui suis rentré en Belgique pour ouvrir mon propre restaurant, il a toujours été là si j'avais besoin. C'est important pour moi de garder ce lien. Et d'ailleurs, dans mon restaurant, il y a une seule photo, ben, c'est de nous deux. Et pour moi, elle est très importante. Le chef n'est pas encore venu, mais je pense que c'est juste l'agenda qui ne se met pas, mais je sais que l'envie y est de son côté. Le chef tient ses promesses et un jour il viendra, il passera la porte, ce sera le plus beau des cadeaux, quoi, donc c'est certain.
Alors
ouais, c'est vrai. Je pars pleurer deuxième coup, mais fait partie de ces gens, il y a tout. Je vais citer deux autres noms. C'est un Coréen qui vient d'obtenir une étoile, qui est resté 10 ans chez nous, qui était chef au Gaïa, qui vient d'avoir une étoile à Séoul. Un autre qui est autrichien, que j'ai envoyé à Moscou comme un cow-boy, à 26 ans, qui a tenu notre restaurant de Moscou pendant 7 ans. Il est revenu, c'est lui qui a obtenu les 3 étoiles à Sketch. Et puis un jour, il m'a dit, un chef, vraiment, lui aussi, presque en larmes, dit, moi, mes vaches, elles me manquent, chef. Faut que je rentre au pays. Et il est près de Salzbourg, dans les montagnes. Il vient d'obtenir 2 étoiles, et je pense qu'il aura 3 étoiles, ces gars-là. Et ils sont très copains entre eux. Hein, cette tribu-là, ça m'échappe. Hein, c'est leur... Et voilà, ils vont survivre, ces gens. Et ils ont le talent. C'est une chose auquel je ne croyais pas, le talent. Il y a le talent, voilà. Ce jeune qui est aujourd'hui avec nous, il a du talent. Voilà. Le talent, on l'a ou on l'a pas. Après, il faut bosser. Ça, c'est une phrase facile. Et puis après, il y a l'humanité qu'on met... Moi, c'est ce qui est important aussi. C'est l'humanité qu'on met dans son travail. C'est la façon dont on fait. Et François-Xavier l'a très bien expliqué.
Et vous avez compris que François-Xavier Simon vous attend dans son bistrot Blaise à Marche-en-Famenne, ouais. Pas très loin de Bruxelles. Il vient d'obtenir une étoile Michelin... depuis cette année, et moi je suis très curieux de découvrir ce restaurant près de Bruxelles. On va y aller. Plaque de cuisson, Pierre Gagnère ?
Allez, on y va, oui, c'est plus dur là.
Plaque de cuisson, vous rejoignez Mathieu Restrepo Giano, âgé de 20 ans, qui travaille à vos côtés.
Hop.
Pierre Gagnère enfile son tablier. Alors, voilà. Mousseron Saint-Georges.
J'adore ce champignon qui est magnifique. Quelques petits pois, des asperges sauvages de la Meuse.
Ah !
Voilà. Et puis jamais quelque chose, on verra si on a le temps, qui est le pas de côté, c'est une saucisse de couane.
Ça, je l'avais repéré. Ça,
je devais choisir entre la réglisse ou la saucisse de couane. J'ai donc opté pour la réglisse, voilà. Alors, c'est le plus dur, c'est allumer la plaque. Un tout petit peu d'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive vient de Camargue. Voilà.
Oui.
Là, les petits pois, les pointes d'asperges, un peu de sel. Donc, légèrement grillé.
Vous cherchez la coloration, là, dans
tout
ce...
Tout petit peu les colorer, oui.
Alors là, vous couvrez pour accélérer un peu la cuisson, voilà. Vous les étuvez, en quelque sorte.
Voilà, voilà. Alors, j'ai débarrassé les petits pois et les pointes asperges sauvages.
Et là, vous passez à la cuisson des champignons.
Voilà, oui.
Une belle noix de beurre.
Légèrement salée. Plus long, c'est la cuisson des champignons, voilà. Alors là, on a les queues d'asperges sauvages, crues. On met... un peu de beurre fondu.
Alors ça, c'est dans un cul de poule.
Le parmesan. Un petit peu de poudre d'amande. Et un petit peu salé. On va mettre la réglisse.
C'est vraiment la poudre du bois.
Voilà. Elle vient d'Italie, elle est extraordinaire, cette réglisse.
On pourrait dire une sciure de réglisse.
Oh, c'est pas très joli, sciure.
Pardon.
C'est pas terrible. On peut trouver mieux, monsieur.
On vous a connu plus inspiré.
Régis Gaudry est recalé à l'examen pour la dénomination des recettes.
Pierre Gagnère, comment définiriez-vous le goût de la réglisse pour laquelle vous avez une certaine passion?
C'est un peu caramélisé.
C'est suave aussi.
Mais suave, ça reflète pas un goût. Peut-être un peu de fenouil, un petit peu anisé. Hop.
Pour vous, c'est une épice.
Oui, c'est une épice, oui. Donc, j'ai ramené des petites brioches, là, voilà, qui devraient être chaudes, mais enfin, là, bon, on n'a pas le four. Et puis, j'ai ramené également, c'est une purée de laitue braisée. Alors, une laitue braisée, vous prenez une laitue, vous l'immergez dans l'eau bouillante salée, vous la cuisez à peu près 3-4 minutes, à l'entière, vous l'égouttez, vous la rafraîchissez, vous la pressez bien, vous prenez une petite casserole, une petite tombée d'oignon, un petit morceau de lard, vous mettez votre laitue, un petit peu de bouillon, ça peut être un peu de vin doux, enfin, et vous faites cuire gentiment au four, voilà, 25 minutes de cuisson, et après, ça vous allez le mixer, et vous obtenez ça, voilà.
Vive la salade cuite, on a oublié ce savoir-faire des salades cuites.
Ouais, c'est vraiment très très bon.
Ouais. Donc les mousserons, là, ils sont en train de rendre ce qu'il y a de meilleur dans le mousseron, c'est ces taux de cuisson. On va mettre un tout petit peu de réglisse, passoir. Je viens dégoûter donc ces champignons. Je récupère la majorité du bouillon, dans lequel j'ai mis un tout petit peu de menthe. On est prêt.
Dressage.
Chaud devant. Alors, mousseron des prés, mousseron Saint-Georges, asperges sauvages. lorsque les gens dressent, ils dressent en dôme souvent. On ne donne rien. Moi j'aime bien, mais ça, là c'est une caresse. C'est une douceur.
Une paume ouverte.
Là c'est beau comme ça.
Ouais.
Occuper l'espace de l'assiette, laisser bien sûr un peu de blanc. Et ça, ça ne s'explique pas trop. Il y en a qui le comprennent instinctivement, puis d'autres qui ne comprennent rien. Voilà.
Voilà. La démonstration culinaire de Pierre Gagnère à la plaque de cuisson dont on va déguster. Un grand merci, Pierre. Pour résumer les choses, une première assiette avec effectivement asperges, queue d'asperges, petits pois, poêlés de champignons, il y a des mousserons. On a un petit bol avec un fond de bouillon réglissé infusé à la menthe. Et on a cette petite brioche surmontée d'une purée de laitue braisée avec une rondelle de saucisse
de couane.
De saucisse de couane. Bon appétit. Il n'y a pas d'ordre ?
Non. Non, surtout pas.
Et pour nous accompagner dans cette dégustation, nous accueillons Uwe Rasmussen. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous venez d'où ?
Je suis danois.
Vous connaissez Pierre Gagnère ?
En fait, le premier restaurant que j'ai visité après mon déménagement en France, c'était Pierre Gagnère. Et surtout là, j'ai découvert l'humanité de Pierre Gagnère parce qu'il s'intéressait dans sa cuisine aussi aux ses convives. Et on a eu un échange, et notamment que le logo de son restaurant, rue Balzac, était fait par un Danois, Per Arnold, qui est un ami de mes parents.
Ah, c'est génial ça.
Vos parents sont amis avec un certain Per Arnold, qui est l'auteur de cet intrigant logo. Décrivez-le-nous à la radio, Pierre Gagnère, ce logo.
C'est trois barres, jaune, rouge et bleu, donc les trois couleurs fondamentales. C'est une table, et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est très très graphique, c'est très austère, et la beauté vient de cette élégance du petit espace qui est entre le plateau et les deux barres. Voilà.
Les deux barres verticales. Ouais, ouais. Donc ça ressemble à une table, mais on pourrait l'interpréter aussi comme le fameux signe pi
oui,
des mathématiciens.
Ce serait prétentieux quand même.
Uwe, alors, ça se passe comment ?
C'était délicieux et surtout je reconnais Pierre Gagnère parce que d'un côté on peut reconnaître le saveur, mais c'est comme Per Arnoldi, c'est une juxtaposition de couleurs et ça crée quelque chose de nouveau.
La fraîcheur réglissée, parce que la réglisse c'est de la suavité, c'est un peu d'amertume, mais c'est aussi ces notes finalement assez fraîches qui apportent beaucoup de relief à ce bouillon.
Qui accompagnent les notes de sous-bois et qui les exacerbent tout en les rafraîchissant.
Et puis à la menthe. Hein.
Une très grande sapidité.
À la menthe qui rafraîchit.
Ces petits pois sont absolument extraordinaires en fait. Et avec les champignons, là pour le coup c'est vraiment le printemps qui s'invite à table, dans toute sa nudité, sa pureté.
Et vous n'avez même pas parlé du gras juteux de cette saucisse de couenne, c'est irrésistible.
Bien sûr que c'est le petit cadeau à côté. C'est le petit cadeau pour inciter les enfants à manger un peu de légumes. Si tu manges tes légumes, tu auras droit à un petit peu de saucisse de couenne. C'était très bon avec cette brioche, ça apportait un contrepoint. Ça buvait un petit peu son gras, c'était formidable. C'est un très très joli plat, d'une grande élégance.
Et ouais, et tout ça dans des conditions quand même un peu précaires, hein, sur une plaque de cuisson.
Vous savez, les cuisiniers, comme le reste de la population, ont grandi, donc je vous invite à mettre une table un peu plus haute, voyez. Oui,
grand merci pour ce très beau cadeau, Pierre Gagnère. C'est délicieux, hein. Vous vous en souviendrez ?
Absolument.
Merci d'avoir été avec nous pour déguster, hein. Vous pouvez rester avec nous. Pour conclure cette émission, le temps d'échange avec Jérôme Gagnès.
On va déguster sur France Inter.
Cher Pierre, j'ai bien évidemment lu très attentivement votre livre. Et d'abord, j'ai trouvé génial le fait qu'on ait tous les plats de toutes vos cartes. Depuis le début, c'est une lecture qui m'a fait voyager. Je me suis plongé là-dedans avec un délice absolument incroyable. Et j'ai une question alors un peu plus générale sur votre métier et votre rapport au vin. On sait que vous aimez le vin, vous avez une parcelle de Châteauneuf-du-Pape avec le domaine Giraud et puis Rudy Ricciotti, qui donne naissance à une cuvée qui s'appelle Gary. Vous vous êtes associé récemment avec la famille Parcé à Collioure et Banyuls, qui est une famille très ancienne de vignerons qui font des vins tout à fait remarquables et qui sont des très grands vignerons. Du reste, comme les Giraud, hein, frères et sœurs, Marie et son frère à Châteauneuf-du-Pape sont des gens tout à fait remarquables. Quel rapport entretenez-vous avec les sommeliers et leur travail ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font ou est-ce qu'au fond, chacun est un peu dans sa ligne et est finalement à charge pour le sommelier, d'une certaine façon, de se débrouiller ? Parce que vous avez une cuisine qui est, pour un sommelier, il y a de quoi avoir mal à la tête. Hein.
Je laisse faire. effectivement, je les questionne, mais ils font leur, je les laisse faire, c'est leur truc, voilà. Alors, il y a des choses qui m'énervent, je dirais pas lesquelles.
Ah ben si, ça nous intéresse.
Oh ben les fanaux, voilà, les vins nature, les trucs, il y a des trucs qui sont pas bons, quoi. Mais il y a aussi des vins faits avec tout le machin qui traîne, qui sont pas bons non plus.
Non, mais ça c'est absolument certain.
Voilà,
comme toujours, in medio stat virtus. Hein,
voilà,
c'est vertu est dans le milieu, voilà, donc dans le juste milieu.
Voilà.
Aujourd'hui, vous prenez un peu plus de temps pour goûter les vins de votre carte. Vous avez un rapport plus étroit avec votre.
Oui, oui. Je bois en général un verre de vin tous les jours. Un peu, mais la moitié, hein, je bois ça. Hein.
Alors, vous versez la moitié, voilà. Il reste un petit fond de verre.
Et on se fait plaisir, vraiment plaisir, parce qu'on arrête justement le manque.
Il faut qu'il y ait une petite frustration.
Parce qu'il faut défendre le vin aussi.
Bien sûr. Et justement, à propos de vin, alors, ce que j'ai versé dans nos verres, en fait, je voulais évidemment faire référence à vos origines stéphanoises. C'est un vignoble que j'ai découvert il y a maintenant une quinzaine d'années. C'est les Côtes du Forêt, oui. Hein, donc on n'est pas très loin de Saint-Étienne. Un domaine dont j'avais parlé quand nous avions fait une émission à Saint-Étienne en février 2018.
Ah oui, je me souviens.
Je vous ai servi une cuvée Migmatite 2015. Je voulais vous servir ce vin parce que je voulais montrer que ce tout petit vignoble, il fait aujourd'hui 150 hectares, qui est planté de gamay sur des roches qui sont soit basaltiques, schématiquement soit basaltiques, soit granitiques. On peut faire des très jolis vins qui ont une capacité de vieillissement. Je vais vous offrir après une bouteille de 2018 qui est un autre vin qui sont des vieilles vignes de gamay sur des terroirs basaltiques que vous découvrirez chez vous. Le 2015, il me permettait de faire un lien dans son registre de sous-bois, un petit peu automnal.
Presque avec des notes animales aussi.
Avec un peu animal, parce qu'il y a de l'évolution, c'est un vin qui a 10 ans. Ça faisait le lien avec les champignons de votre recette. C'est aussi une manière pour moi de reparler de ce vignoble. Ce sont encore d'excellents rapports qualité-prix. Tout le monde cherche à avoir des bons rapports qualité-prix, parce que c'est l'essence même. C'est être satisfait de ce qu'on a acheté pour le prix qu'on a payé. Et chez Gilles, on a aujourd'hui des vins qui sont d'une franchise, avec des belles textures, des vins qui sont très fidèles au lieu, à leur lieu de naissance. Et ce gamay qu'on est en train de déguster, qui est donc sur Migmatite, ce sont des granites avec des argiles. Voilà, c'était un petit clin d'œil à vos origines stéphanoises et à ce vignoble forésien.
Enfin, je pense commencer, il manque frais un peu.
Il faut le servir plus frais.
Ouais, ouais, ouais.
Hein, ce sont des vins, même quand ils ont 10 ans,
oui.
Ce sont des vins qu'il faut servir plutôt aux alentours de 14-15, en fait, remontée de cave. Hein.
Ouais,
c'est la température de service de ces vins-là.
Il vous parle, ce vin ?
Ah oui, c'est délicieux. Oui, puis c'est vrai que les progrès qui ont été faits dans cette région, moi à l'époque, quand j'ai quitté Saint-Étienne, il y avait Sérolles, hein, c'est tout. Hein.
Robert Sérolles a été un des très grands vignerons de Côte-Rennaise. Son fils maintenant, Stéphane, avec sa femme Karine, font des vins absolument extraordinaires.
Ouais.
D'ailleurs, Robert Sérolles, il s'était associé à Pierre Troigros.
Oh, mais c'était plus qu'un associé, c'était un pacte d'amitié.
C'était ça, ouais.
Et Pierre...
ils avaient leur parcelle, les Blondins, et il y avait toujours un Côte-Rennaise à la carte de chez Troigros.
Merci beaucoup, Jérôme Gagnez.
Avec grand plaisir.
Et merci, Pierre Gagnard, d'avoir vos termes de cette émission. Malheureusement, je ne peux pas donner la parole à notre public, on a... plus vraiment le temps. Juste une mini-question avec une réponse courte, Pierre Gagnard, pour conclure cette émission. Vous avez maintes fois déclaré que la cuisine est un sacerdoce, avec ses contraintes et ses sacrifices. Vous avez aujourd'hui 75 ans. La cuisine jusqu'à quand ?
On verra. Trop bonne suspension.
Merci Pierre Gagnère. Pierre Gagnère, Une vie en cuisine, un livre à vous recommander pour pénétrer l'univers profondément séduisant, mystérieux, complexe de Pierre Gagnère aux éditions Caribus. C'est un livre paru en 2023. Notre masterclass est la 7e leçon de cuisine que vous pouvez retrouver en podcast dans la série Les Chefs Passent à Table sur l'appli de Radio France et toutes les plateformes de podcast. Un grand merci à Anne Thor qui nous a aidé à préparer cette émission.
Ah oui.
Et ben la semaine prochaine, figurez-vous, au menu dont on va déguster la pizza. Une passion française,
oui.
Avec le spécialiste Bartolomé Calderon et notre experte de la cuisine italienne Alessandra Pierini. Mon petit doigt me dit que Jérôme Gagnez en saura.
Ah oui, si je suis allé chez Bartolo, c'est absolument bluffant.
Vous nous raconterez.
Oui.
Ça, c'est du teasing. À dimanche prochain. Si vous avez encore faim,